Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sidoudia. Bonjour. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, a été réélu dès le premier tour avec 88,57% des voix, selon les résultats provisoires de la commission électorale annoncée mardi par le ministre de l'Intérieur. Nous y reviendrons dans quelques instants avec notre correspondant Arsène Séverin. De l'autre côté du fleuve, l'armée de la RDC a indiqué mardi que 5 civils et 1 militaire ainsi que 27 rebelles ont été tués en 2 jours d'offensive militaire contre la CODECO, un groupe armé dans le nord de la République démocratique du Congo. John Lyndon nous en parlera. Une vingtaine de personnes ont été inculpées mardi en Gambie, une semaine après des violences contre des pêcheurs sénégalais installés dans le pays, a annoncé la police gambienne. Le 15 mars, la localité de Sanyang a été le théâtre de violences après le meurtre par un Sénégalais d'un Gambien qui l'aurait surpris lors d'une tentative de cambriolage, selon les autorités. En représailles, les communautés locales ont mis le feu à un commissariat où le meurtrier présumé s'était réfugié, ont pillé une usine chinoise de farine de poisson employant des Sénégalais et détruit une dizaine de pirogues et plusieurs véhicules, a indiqué mardi la police gambienne dans un communiqué. Une agence américaine a mis en doute mardi l'efficacité revendiquée par AstraZeneca pour son vaccin, portant un nouveau coup à ce laboratoire déjà sous pression en Europe. Selon l'Institut national des maladies infectieuses et des allergies qui supervise des essais cliniques de vaccins aux États-Unis, le groupe suédo-britannique a pu utiliser des données obsolètes pendant ses essais cliniques aux États-Unis et cela peut avoir abouti à une évaluation incomplète de l'efficacité du vaccin. AstraZeneca a annoncé qu'il fournirait dans les 48 heures des données récentes. Macao et Hong Kong ont annoncé mercredi la suspension de leur campagne de vaccination avec le vaccin Pfizer-BioNTech après avoir été informés d'un problème au niveau de l'emballage d'un lot de flacons. Les deux territoires ont indiqué avoir pris cette décision après avoir été contactés par Fosun, leur laboratoire pharmaceutique chinois qui distribue le vaccin Pfizer-BioNTech en Chine. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a revendiqué mardi soir une immense victoire de la droite aux élections législatives, mais il va encore devoir rallier les appuis suffisants à la formation d'un gouvernement. Selon les sondages à la sortie des bureaux de vote, le Likoud de M. Netanyahou remporte entre 31 et 33 sièges sur les 120 de la Knesset, loin devant le parti Yesh Atid du centriste Yair Lapid, crédité de 16 à 18 sièges. Un porte-conteneur géant s'est échoué dans le canal de Suez après avoir été déporté par une rafale de vent, a annoncé mercredi la compagnie maritime qui l'opère, et le trafic maritime s'est arrêté sur l'une des routes commerciales les plus fréquentées du monde. La Corée du Nord a testé des missiles de courte portée pour la première fois depuis l'arrivée du président Joe Biden à la Maison-Blanche, mais Washington a minimisé ce geste de défi au moment où M. Biden définit sa propre stratégie face à Pyongyang, et ce après la tentative de diplomatie directe de son prédécesseur Donald Trump avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui n'a permis aucune avancée sur la dénucléarisation du pays reclus. Le président Joe Biden a réclamé mardi l'interdiction des fusils d'assaut après une nouvelle tuerie qui a relancé le débat sur la prolifération des armes à feu aux États-Unis et dont l'auteur présumé, un jeune homme de 21 ans, a été inculpé. Michel Joseph fera le point. La NASA tentera début avril le premier vol d'un engin motorisé sur une autre planète en essayant de faire décoller l'hélicoptère Ingenuity sur Mars, a annoncé la NASA. Suite de nos informations, au Congo-Brazzaville, le président sortant Denis Sassou Nguesso a été proclamé vainqueur de l'élection du 21 mars avec plus de 88% des voix, alors que son principal rival, Guy Brice Parfait Kolela, décédé après le vote, n'a obtenu que 7%. La participation électorale a été de 67%. D'autres détails avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Avec plus de 88% des suffrages exprimés, Denis Sassou Nguesso, 77 ans, a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Si cette victoire n'a pas surpris nombre d'observateurs, les scores réalisés dans les départements sont cependant révélateurs d'une omniprésence imparable. 100% dans certaines localités du sud, comme du nord, Denis Sassou Nguesso est devenu le président le plus populaire du Congo. Loin derrière, Guy Brice Parfait Kolela avec 7%. Même le pool, son fief historique, ne lui a pas été favorable. À Bakongo et Makelekele, où se trouve son QG de campagne, l'opposant a été obligé de partager les voix avec Denis Sassou Nguesso. Mathias Nzon, arrivé troisième, doit partager les 3% restants avec Joseph Kinyumi Kiambungu, Dave Mafula, Albert Onyange et Angios Ngangia Engambe. Mathias Nzon appelle la population à rejeter ses résultats. La proclamation de résultats a été faite alors que le parti UDH Yuki pleure son leader, Guy Brice Parfait Kolela, décédé le jour même du scrutin des suites de Covid-19. L'ambiance est calme et sereine dans la capitale congolaise. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, 5 civils et un militaire ont été tués en 2 jours d'offensive militaire contre une milice. L'armée affirme avoir tué 27 rebelles. Le point avec John Linden.
À l'issue des offensives lancées dimanche et lundi, 27 éléments de la coopérative pour le développement du Congo ou CODECO ont été neutralisés, dont l'un de ses commandants, Malomaki, a déclaré le lieutenant Jules Nkongo, porte-parole de l'armée dans la région de l'Ituri. Il ajoute que 5 civils et 1 militaire ont été tués, mais les forces armées ont délogé les miliciens CODECO de 2 de leurs bastions. L'officier précise que le groupe armé CODECO avait l'intention de couper la circulation à partir des Iga Barrières, un centre de négoces sur la route nationale au nord de Bunia, chef-lieu de la province. La CODECO prétend défendre les intérêts des Lendu, une des communautés de la province aurifère de l'Ituri. Les violences ont repris depuis décembre 2017 dans le territoire de Djougou avant de s'étendre vers les territoires d'Irumu, Mahagi et Aru et ont fait plus de 1000 morts et des milliers de déplacés. Entre 1999 et 2003, un conflit communautaire entre les Lendu et les Hema avait fait des dizaines de milliers de morts en Ituri, à la frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud.
Ici même aux États-Unis, le président Joe Biden a réclamé hier l'interdiction des fusils d'assaut après une nouvelle fusillade qui a relancé le débat sur la prolifération des armes à feu. L'auteur présumé de cette dernière tuerie, un jeune homme de 21 ans, a été inculpé. Michel Joseph.
Le président Joe Biden a ordonné que les drapeaux soient mis en berne dans tous les bâtiments publics, ajoutant « Nous devons bannir les fusils d'assaut ». Le dernier massacre qui a fait 10 morts, dont un policier, a eu lieu lundi dans un supermarché de Boulder, dans le Colorado. Identifié comme Ahmad Alissa, le suspect blessé a été arrêté et inculpé de 10 meurtres, mais le mobile du crime n'est pas encore connu. Une semaine plus tôt, un autre homme avait abattu 8 personnes dans des salons de massage à Atlanta, en Géorgie, tuant 8 personnes, dont 6 d'origine asiatique. Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris s'étaient rendus sur place pour présenter leurs condoléances et messages de sympathie à la communauté américano-asiatique. Pour rappel, en 1999, 2 adolescents avaient tué 12 camarades de classe et un enseignant dans un lycée de Columbine, au Colorado. Puis, 3 ans après, un homme lourdement armé avait abattu 12 personnes dans un cinéma d'Aurora, toujours dans le Colorado. Toutes ces fusillades, récurrentes aux États-Unis, viennent relancer les débats sur l'utilisation des armes à feu. Mais l'hypothèse d'un durcissement des lois sur les armes est toujours improbable.
La Aminuteko, Nanit Talani.
En Angola, la mine de diamant Lulo, située à 630 km à l'est de la capitale Luanda, a augmenté de 135 900 carats contre une hausse de 23 600 carats l'an dernier. Cette embellie est tributaire d'une grande exploration ayant permis de forer environ 4 800 trous. Le projet Lulo, vaste de 3 000 km², a déjà produit 112 000 carats depuis son entrée en production en 2015. Son propriétaire, Lukapa Diamond, vise encore 6 années de production aux niveaux actuels grâce au programme d'exploration qui permettent de remplacer les ressources épuisées, à en croire l'agence Ecofin. La société minière sud-africaine Northam Platinum veut racheter toutes les actions privilégiées de Zambezi Platinum pour près de 135,58 millions de dollars, 4 ans avant l'échéance fixée en 2025. Les actions privilégiées créent une responsabilité financière qui oblige une entreprise à verser régulièrement des dividendes à un taux fixe aux actionnaires ordinaires et à racheter toutes les actions à une échéance fixée. Pour terminer, la Banque centrale libérienne va passer une commande de 281 millions de dollars et retirer aussi certaines anciennes coupures en circulation après que le Sénat a donné son feu vert à la production de nouveaux billets de banque pour mettre un terme à une pénurie récurrente de liquidités au Libéria. Les Libériens se plaignent régulièrement des difficultés à trouver des billets de banque en monnaie locale. Le président George Weah avait donc demandé en janvier au Parlement d'autoriser l'impression de nouveaux billets.
Les sports avec Bagassi Koura.
Bonjour à tous, on commence par les éliminatoires de la CAN 2021. Quelques grands d'Afrique sont déjà qualifiés, outre le Cameroun en tant que pays organisateur, l'Algérie tenant du titre, le Sénégal, la Tunisie et le Mali. Il ne manque aucun point au Maroc, à l'Égypte et au surprenant aux Comores pour se qualifier pour cette CAN 2021 au Cameroun lors de la 5e journée de qualification qui commence aujourd'hui. Cette session finale avec la 6e journée ce week-end a été marquée par d'âpres négociations pour libérer de nombreux internationaux en Europe. En raison des mesures pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le sélectionneur de la Guinée, Didier Six, a par exemple négocié avec Liverpool pour disposer de son leader Naby Keïta pour le premier match contre le Mali ce soir. Sur le terrain, un seul point suffit au Maroc, en Mauritanie, comme pour l'Égypte, au Kenya. Et les Léopards de la RDC, eux, arrivent aujourd'hui à Franceville pour y affronter les Panthères du Gabon et Valdo Simoyamba. C'est après près de 72 heures de regroupement passé à Kinshasa.
C'est une sélection de la RDC prête qui rejoint Franceville au Gabon ce mercredi pour y affronter les Panthères. C'est jeudi 25 mars, un match de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. Christian Tsengui et les sélectionneurs de la RDC.
On est prêt dans le sens que physiquement, on a pris les joueurs qui étaient le plus en forme.
Après 2 séances d'entraînement effectuées au stade des Martyrs, les sélectionneurs congolais estiment que c'est le mental qui fera la différence.
C'est le mental qui va faire quelque chose à Franceville. C'est le mental qui va faire gagner l'équipe. C'est le mental qui va jouer. C'est l'esprit qui sera sur le terrain, qui va remporter la rencontre. C'est ceux qui auront à cœur, c'est la détermination, c'est vraiment ce qu'on veut.
Pour y arriver, les Léopards comptent notamment mettre à profit l'absence du public gabonais dans les stades pour s'en tirer avec un résultat positif.
C'est clair qu'on va prendre tous les éléments de notre côté et le fait qu'on n'évolue pas devant un public nous met aussi à l'aise parce qu'on est en jeu à l'extérieur et on a besoin d'avoir cette tranquillité, on a besoin d'avoir cette assise, voilà, c'est ce qui est important.
Troisième de son groupe avec 6 points derrière la Gambie et les Gabon qui en comptent 7, défaite interdite pour la RDC. Kinshasa, Valdo Simoyamba, VOA Afrique.
Et en Europe, le Bayer Leverkusen est un temps candidat au titre, mais désormais en perte de vitesse en Bundesliga, s'est séparé de son entraîneur Peter Boss. A annoncé hier, le club allemand actuellement retombé à la 6e place, l'équipe comptera sur Hans Wolf, jusqu'alors entraîneur de moins de 18 ans à la Fédération allemande de football, pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison et espérer décrocher une place européenne.
Vous êtes croyant, animiste ou athée? VOA Afrique vous accorde une tribune dans Dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manilakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des religions.
Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie Idrissa Sibudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, les partisans du président Denis Sassou Nguesso, réélu pour un nouveau mandat de 5 ans, ont manifesté leur liesse dans les rues de Brazzaville, saluant ce qu'ils ont appelé une victoire méritée. Sassou Nguesso a totalisé 88,57% des voix. L'opposant Mathias Dzong, qui arrive troisième, appelle la population à rejeter ses résultats. Reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Est élu président de la République du Congo, Sassou Nguesso Denis, soit 88,57% des suffrages exprimés.
Tout est allé très vite. Le ministre de l'Intérieur, Raymond Boulou, a proclamé les résultats 2 jours seulement après le scrutin. Denis Sassou Nguesso, le président sortant, n'a pas déjoué les pronostics, ses partisans ayant appelé régulièrement le long de la campagne électorale à un coup KO dès le premier tour. Du QG de campagne Ampila, où ils suivaient cette proclamation, ils expriment leur joie.
Victoire bien méritée, parce que c'est lui qui a fait la meilleure campagne, c'est lui qui est le plus populaire et c'est lui qui a un programme réel.
C'est la joie, c'est la joie. Vraiment, c'est la joie. Je suis un électeur du président Sassou, donc c'est une joie immense. Et je sens droit de Mayanga.
C'est ce que nous on cherchait, c'est un président qui est vraiment un président pour les jeunes. Vraiment, il fait beaucoup pour le Congo.
Denis Sassou Nguesso a réalisé des scores inédits, des 100% même dans les bastions de l'opposition. Pour ses premiers mots, en tant que président de la République, Sassou Nguesso a réservé la meilleure à son challenger.
Nous avons la capacité de rebondir et de redresser notre économie et d'aller vers le développement. Mes premières pensées vont vers Guy Parfait Kolela.
Loin derrière le président réélu arrive Guy Brice Parfait Kolela, décédé le jour même du vote. Il totalise 7,84% des suffrages. L'opposant a dû laisser des points importants dans ses fiefs du Poule, des Bas-Congo et de Makelele à Brazzaville. Mathias Nzon, qui n'a obtenu que 1% des voix, appelle la population à résister ses résultats.
Ça, ce n'est pas, c'est une catastrophe pour notre, ça fait honte au pays. C'est que je suis étonné des rapidités qu'on donne des résultats. On dirait qu'ils ont peur de quelque chose pour surprendre les autres. C'est pas en un jour qu'on peut compiler tous les résultats venus du Congo. Donc c'est quelque chose de préconçu. Tout ce que j'ai dit aux Congolais, ce sont des trucs à rejeter purement et simplement. Ça ne correspond à rien du tout.
Au soir de cette proclamation, la capitale congolaise est restée dans le calme, la population vacant librement à ses occupations. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous au menu de Washington Forum ce jeudi. La présidentielle au Congo-Brazzaville, la réélection du président sortant Denis Sassou Nguesso, 36 ans au pouvoir, s'annonce déjà comme un plébiscite. D'après les premières tendances, le scrutin a été endeuillé par la mort de son principal rival, l'opposant Guy Brice Parfait Kolela, décédé des suites de la maladie Covid-19. Était-ce une élection gagnée d'avance? L'opposition et la société civile ont-elles voix au chapitre? La jeunesse congolaise est-elle en quête de changement? Vos réactions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
En République démocratique du Congo, les évêques de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, ont rendu public une feuille de route pour le pays jusqu'à la tenue des élections en 2023. Une initiative qui semble être bien accueillie par certaines organisations politiques et de la société civile qui restent bien vigilantes quant aux réformes qui s'imposent avant la mise en place des animateurs au niveau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Précision de notre correspondant à Kinshasa, Valdo Simon Yamba.
L'agenda 2023, comme feuille de route, lancée par la Conférence épiscopale nationale du Congo, planifie une série d'activités qui vont devoir être menées jusqu'à la tenue des élections en 2023, voire au-delà, conformément aux étapes d'un cycle électoral, avait déclaré l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO. Initiative de la CENCO qui est loin d'être une obligation, estime Norbert Yambayamba, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti du président Félix-Antoine Tshisekedi.
La grande question de savoir, est-ce que la proposition de la CENCO est une obligation ou une contrainte institutionnelle? Moi, je dis non, c'est pas une obligation. C'est une opinion qui permet aux décideurs, n'est-ce pas, de prendre en considération pour aller dans le sens des respect des normes institutionnelles.
Pour Jonas Tshombela, président de la nouvelle société civile du Congo, l'initiative de la CENCO est tout à fait normale.
Il est normal qu'il puisse donner une réflexion qui n'est pas une loi. Il ne faut pas que les gens relativisent cela. Donc, ce n'est pas une loi. C'est une opinion de l'Église. Comme ce samedi, l'Église de Christ au Congo présentera sa feuille de route. Et je vous dis aussi que la semaine prochaine, l'Église de Réveil présentera sa feuille de route.
Cette proposition est bien accueillie au sein du Nouvel Élan, parti politique d'Adolphe Mouzito, membre de la coalition Lamouka, c'est ce qu'est dit Maître Blanchard Mungomba, son secrétaire général.
D'une part, cette feuille de route semble rencontrer notre désiderata lorsque nous parlons le même langage par rapport à la ligne rouge pour la tenue des élections de 2023. Là, la CENCO, nous sommes d'accord sur le plan de principe.
Seul point de divergence, l'appel à la candidature initié par les évêques de la CENCO sans au préalable que les réformes ne soit démise. Maître Blanchard Mungomba est le secrétaire général du Nouvel Élan.
Faire une chose et son contraire tel qu'ils l'ont fait en acceptant piège de Mbosso en initiant l'appel à candidature pour le poste de président au niveau du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, ça nous disons non, nous fustigeons ces comportements.
Norbert Yambayamba, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti au pouvoir, lui suggère plutôt la mise en place des nouvelles règles avant toute chose.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'attendre, avant que les candidatures soient lancées, qu'on définisse, n'est-ce pas, les nouvelles règles? Et en définissant les nouvelles règles, à ce moment-là, ça sera très propice qu'on puisse choisir des hommes et des femmes qui correspondraient véritablement à ces règles-là.
Il est donc certain qu'à ce sujet, le Parlement congolais a du pain sur la planche. De Kinshasa, Valdecimo Yamba, VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Le Niger a commencé ce mardi un deuil national de 3 jours suite au massacre d'au moins 137 civils dimanche dans 3 villages de la région de Taoua, proche du Mali. Ces attaques ont eu lieu 6 jours après une autre attaque qui a coûté la vie à près de 60 personnes dans la région de Tillabéri. À Niamey, les réactions des citoyens sous le choc. Au micro de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Ah, la situation elle est très inquiétante. Hein. Hier c'était à Banibangou, avant-hier c'est à Tilia. C'est très révoltant ce qui se passe. Plus de 200 personnes et des populations civiles qui sont la cible des groupes armés non encore identifiés. La situation sécuritaire s'est dégradée et la situation politique aussi se dégrade. Donc, les deux ensemble, c'est une menace sérieuse sur la paix au Niger et on doit prendre ça au sud.
C'est une hécatombe. Quand on parle de 137 vies humaines officiellement communiquées par le gouvernement et plusieurs autres blessés dont le nombre n'a pas été officiellement déterminé, je pense que c'est énorme. 137 vies humaines arrivent quelques jours seulement après l'exécution ciblée de 68 autres personnes dans la région de Tillabéri. Je pense que c'est trop. Le gouvernement lui-même a pris soin également de citer l'attaque de Tumour également, récemment où il y a plus de 100 morts. Je pense qu'on est en train de prendre un autre tournant où vraiment les forces du mal sont en train de viser uniquement les populations civiles. Et je pense que c'est extrêmement grave.
La poussée terroriste est de plus en plus inquiétante dans notre pays parce qu'on a vu qu'en moins d'une semaine, nous avions eu un bilan macabre assez inédit, plus de 200 personnes tuées officiellement. Ceci interpelle aussi sur l'urgence qu'il faut adoptée pour déployer rapidement les forces afin de sécuriser ces zones, mais aussi de réfléchir profondément sur une sorte d'inversion du paradigme sécuritaire au Sahel, parce que de plus en plus on voit que il y a certainement quelque chose qui ne marche pas dans la stratégie. Et les communautés sont de plus en plus vulnérables. Elles subissent de plus en plus des agressions qui deviennent persistantes. Et je pense que nos États doivent bâtir d'abord leur résilience sécuritaire et ensuite contribuer à consolider la résilience de ces communautés pour que nous ne soyons pas dans une faillite totale de nos États au Sahel.
En l'espace d'une semaine, plus de 200 civils ont été donc tués dans deux attaques séparées dans l'ouest du Niger, proche du Mali. Des tueries qui ont eu lieu dans une zone où sévissent des groupes djihadistes. Pour Abdoulaye Sounaï, socio-anthropologue à Berlin en Allemagne, ces dernières attaques au Niger pourraient être le résultat de règlements de comptes entre communautés. Au micro de Bagassi Koura, Abdoulaye Sounaï.
Ces dernières attaques, à mon avis, traduisent la complexité de la situation dans la région. Et il est clair pour moi que à cet élément djihadiste terroriste qui existait déjà est en train de s'ajouter une dimension communautaire.
Quelles sont les communautés qui seraient impliquées?
Pratiquement toutes les communautés de la région sont affectées par cette situation. Je pense que on peut tracer des parallèles avec ce qui s'est déjà passé dans les deux autres pays de la région, en particulier le Mali et le Burkina. Évidemment, il y a des facteurs qui sont là, peut-être endogènes, on peut dire, des conflits peut-être qui sont là depuis longtemps, mais aussi il y a ce que moi j'appelle l'émergence de nouveaux acteurs et qui essaient aujourd'hui de se créer des espaces politiques. Et parfois, il y a des alignements ethniques que l'on remarque, mais il y a aussi des alignements plutôt communautaires, des groupes d'intérêt qui s'alignent et qui s'organisent.
Il faut craindre le pire alors?
Absolument. Je pense que cette région-là, aujourd'hui, elle est de plus en plus fragilisée par la concordance, finalement, de ces formes de conflits qui naissent. Et de plus en plus, ce que l'on constate aussi, c'est la mise à l'écart de l'État, ou en tout cas de l'autorité de l'État, qui aujourd'hui, comme le disent beaucoup, n'a plus que son armée pour monter une certaine présence dans la région. Or, justement, la militarisation du conflit dans la région, dans une certaine mesure, affaiblit l'État et son autorité.
Le Niger vient d'avoir un nouveau président. Comment est-ce que le nouveau gouvernement devrait faire pour amener la paix dans ces régions-là?
À mon avis, il faudra que ces nouveaux dirigeants-là, peut-être, réfléchissent un peu sur ce qui a été fait jusque-là et ce qui n'a pas été fait aussi jusque-là. Et je pense surtout à comment créer les conditions d'un dialogue, d'une concertation dans la solution. Aujourd'hui, il est clair que la seule option militaire ne peut pas résoudre le problème. On est arrivé à une détérioration de la situation qui impose que les gens oublient quelque peu ce qui s'est passé il y a quelques mois ou même quelques années et acceptent de s'asseoir pour commencer à se parler, à dialoguer.
Le socio-anthropologue Abdoulaye Sounaï, joint à Berlin en Allemagne.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, ciao. Bless. Peace, Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.